La radio diffuse la poésie des poètes.
Poème.
La radio diffuse la poésie. Mais la poésie.
Poème. Poème. Poème.
Poème.
Poème. Poème.
Je me sens que la poésie.
Poème. Poème.
Poème.
Il y aurait comme une sorte d'afflux.
Poème.
Poème.
Toutes ces voix écrites qui viennent parler ou témoigner.
Poème.
C'est la poésie. La poésie. La poésie. La poésie.
Et puis on va poursuivre avec Thali Envolée, avec les deux Antoine et Arnaud qui sont donc dans le studio avec nous pour nous parler donc d'un projet, comme je l'ai dit, qui met à l'honneur la poésie, la littérature tombée dans le domaine public sous la forme d'enregistrements de qualité. En tout cas, c'est ce qui est présenté donc sur votre site internet. Alors tout simplement, je vais dire Antoine, mais vous êtes deux, mais j'en regarde bien un en particulier. Comment est née cette idée de Thali Envolée?
Cette idée, elle est née il y a 2 ans et demi maintenant, ou presque 3 ans, d'un constat, le constat que la poésie était très peu présente sur Internet, et que Internet, c'était maintenant la voie privilégiée de l'accès au savoir et à la connaissance. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, et puis nous, en tant que jeunes comédiens, c'était aussi un moyen de continuer à travailler. Et de présenter un travail voilà, qui puisse nous permettre de rencontrer des gens, etc.
Alors, votre idée quand même aussi, c'est justement la poésie n'est pas forcément visible sur Internet, mais c'est aussi de lutter un peu sur le fait qu'elle n'est pas facile d'accès. Hein, c'est ce que vous revendiquez quand même, c'est essayer de trouver un moyen pour qu'elle soit en tout cas plus facile et plus abordable.
Oui, l'autre constat, en fait, c'est qu'un bouquin fermé fait peur, qu'un poème écrit est difficile à déchiffrer. Et donc ici, le travail, c'est que donc, c'est nous qui allons le lire, nous qui allons le déchiffrer, et nous qui allons proposer une interprétation la plus proche possible. Possible, c'est impossible évidemment de coller complètement, mais d'être la plus proche possible de ce qu'a écrit l'auteur et de le proposer en 3 clics. Voilà.
Alors vous avez choisi des auteurs connus hein, évidemment, donc les noms qui ressortent sans cesse, Rimbaud, Baudelaire, ça reste quand même des poètes que personne n'oublie, même ceux qui ne lisent plus ou pas de poésie. Mais vous avez aussi dans votre répertoire des poètes qui ne sont pas forcément connus aujourd'hui, qui sont un petit peu tombés dans le domaine, dans l'oubli, hein, donc on parle du domaine public, mais aussi tombés dans l'oubli. C'est aussi un travail de mémoire que vous faites hein.
Ah oui, complètement. Bah d'ailleurs, je vais juste dire que tomber dans le domaine public, on a essayé de bannir cette expression parce que ça voudrait dire que ça tombe à la poubelle ou que ça tombe quelque part où ça n'existe plus. Alors qu'au contraire, quand ça arrive dans le domaine public, il y en a même qui disent quand ça monte dans le domaine public.
Quand ça s'élève
dans le domaine public. En fait, quand ça arrive dans le domaine public, au contraire, il appartient à tout le monde. Tout le monde peut en faire absolument ce qu'il veut, l'abîmer, l'améliorer, le changer, le transformer, tout, tout, tout. Et donc, toutes les portes se réouvrent, en fait. Alors qu'avant ça, il y avait des droits, il y avait des obligations, il y avait des respects, il y avait des... Et donc voilà, ça monte dans le domaine public, ça arrive dans le domaine public. Et donc, c'est la seule obligation que nous, on a, c'est de prendre des textes qui sont dénués de droits. Mais à partir de là, bah, c'est à notre envie, en fait. Et donc, on a eu envie, il y a un an, de créer un opus sur les femmes poètes, parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des grands noms connus, justement, comme vous dites, c'est des hommes. Et du coup, bah, y a toute une recherche qui a été faite sur ces femmes qui ont écrit de la poésie à l'époque. Et il y en a plein. Et il y a plein de textes magnifiques. Et donc, ça a été des comédiennes qui les ont dit à 100%, puisque ça collait avec ce qu'elles avaient envie de raconter. Et ça a été vraiment... Et donc voilà, en fait, on est tout à fait ouvert à, si quelqu'un a une super idée, a envie d'écrire, qu'on fasse un opus sur les gens qui écrivent sur la plage, bah pourquoi pas, faisons une recherche sur tous les poètes qui écrivent quand ils sont sur leur plage, et ça va sûrement amener des nouvelles choses.
Mais ils doivent être élevés au domaine public.
Évidemment.
Tout à fait.
C'est-à-dire décédés il y a plus de 70 ans.
Voilà. Et alors, aussi quand même, rappeler la spécificité, c'est-à-dire que vous faites des enregistrements, hein, vous pourriez vous contenter de dire les textes lors de spectacles ou de récitals ou encore... voilà, donc,
on le fait aussi.
J'imagine que vous le faites aussi, mais néanmoins, j'ai l'impression, alors vous me dites si vous me corrigez, que quand même vous vous spécialisez dans l'enregistrement de qualité de textes qui sont donc accessibles à tous au niveau des droits.
Oui, il y a deux aspects. Donc il y a plusieurs aspects, mais il y a deux grands aspects. Il y a d'une part les enregistrements et la diffusion des enregistrements, et puis d'autre part tout ce qui est médiation culturelle. Donc on donne des ateliers et des stages d'écoute politique, notamment en collaboration avec Article 27, mais on fait ça aussi dans les écoles auprès des professeurs de français, etc., pour faire découvrir la poésie. Et là, c'est pas forcément en réutilisant nos enregistrements. Ça, c'est une aide que les profs peuvent utiliser en dehors de nos formations. Et puis alors enfin, on a l'aspect théâtre vivant, spectacle vivant. On fait des récitals poétiques. On a fait une exposition sur Guillaume Apollinaire, etc.
Mais tu parles d'Apollinaire, donc on va écouter directement. On va enchaîner avec une lecture de Arnaud d'Apollinaire. Peut-être un mot d'abord sur ce texte que vous avez choisi, parce que voilà, le répertoire est vaste. Hein, donc vous choisissez aussi, j'imagine, des textes qui vous parlent.
Oui, bien sûr. On choisit toujours des textes qui nous parlent. C'est d'ailleurs la première étape dans le choix des textes, des opus que l'on choisit. Je ne saurais pas tout à fait expliquer pourquoi ce texte-là m'a parlé, mais je veux dire que oui, c'est le premier texte qui m'a vraiment sauté aux yeux.
Si donc, je mourais.
Si je mourais là-bas.
Si je mourais là-bas. On écoute. Hein.
Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour. Oh loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait, comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus, semblable aux mimosas en fleurs. Et puis, ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier. La mer, les monts, les vals et l'étoile qui passent, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace comme font les fruits d'or. Autour de Baratier. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point. Toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté. Aux fleurs plus de couleurs, plus de vitesse à l'onde, un amour inouï descendrait sur le monde, l'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur, mon sang c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Oh, mon unique amour et ma grande folie. 30 janvier 1915, Nîmes. La nuit descend. On y pressent un long destin de sang.
Merci beaucoup pour cette lecture. Tali Envolé, c'est aussi donc 8 comédiens, en tout cas pour le moment.
7 comédiens. Un ingénieur du son.
Voilà, 7 comédiens et un ingénieur du son. Et du coup, peut-être un mot sur cette équipe. Voilà, je pense que vous êtes peut-être tous issus du Conservatoire Royal de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a réunis? Est-ce que c'est un groupe ouvert? Est-ce que les gens peuvent en soi venir postuler? Est-ce que vous recrutez de nouvelles voix? Voilà.
Alors, ce qui nous a amenés à être ensemble, c'est l'amour de la poésie. Et puis, c'est On vient tous de la même promotion, donc on se connaissait tous. Donc c'est aussi
la force des choses.
La force des choses. La poésie. Les amitiés qui sont nouées autour de ça.
C'est important peut-être de dire un mot là-dessus, c'est-à-dire que la poésie au Conservatoire Royal de Bruxelles occupe une place particulière, parce que j'imagine que vous êtes tous donc des comédiens plutôt, où il y a des cours de déclamation, etc. Vous ne faites pas que de la poésie pendant 4 ans, donc tout le monde n'est pas forcément, tout comédien n'est pas sensible à la poésie.
Non, bien sûr.
Hélas.
Mais il se fait qu'au Conservatoire, c'est vrai que la poésie a encore une certaine place, alors qu'elle est en train de disparaître de pas mal d'écoles. Alors que c'est l'essence du théâtre, et ça ne fait pas de nous des comédiens qui n'aimons pas le théâtre, au contraire. Mais par contre, oui, en effet, dans la poésie, il y a quelque chose de l'essence de ça, quoi, le berceau de... Bah, d'ailleurs, un des grands genres littéraires, c'est le théâtre, qui fait partie du genre poésie. C'est juste, ça découle de la poésie à tout niveau.
Et la suite de la question, c'était... Oui, est-ce que c'est un groupe ouvert? Alors ça, c'est une très grande question. On n'a jamais discuté de ça, en fait.
Non, mais si par exemple quelqu'un appelle maintenant à Radio Panique pour dire « Oh, je veux faire partie de Thalie en volée », c'est possible?
Oui, c'est possible, mais on est un peu strict. C'est-à-dire qu'il faut être un professionnel. Il faut accepter de publier sous licence libre. Donc ça, déjà, ça élimine un paquet de personnes. Et puis il faut être disponible pour travailler.
Alors publier sur licence libre, peut-être préciser, et peut-être que Vincent Maitine, qui est donc à la technique, peut aussi réagir. Publier sur licence libre, ça veut dire quoi exactement?
Alors la licence libre, c'est simplement un contrat au niveau du droit à l'auteur qui autorise tout le monde à réutiliser les enregistrements pour en faire ce qu'ils veulent, y compris les revendre, y compris les modifier, les remixer, etc. Ils n'ont pas besoin de nous demander notre accord avant. C'est une licence par défaut qu'on impose sur les enregistrements. Et il y a simplement deux conditions simples à respecter. C'est nous créditer en tant qu'auteur des enregistrements et publier les œuvres dérivées de cette œuvre-là sous licence libre également. Voilà. C'est la même licence que celle employée sur Wikipédia, par exemple.
Vincent Maitine, vous voulez réagir à ce commentaire sous licence libre? Ça vous inspire?
Je ne sais pas si je veux réagir, mais effectivement, ce sont des notions qui sont importantes pour nous aussi ici à Radio Panique. On parlait d'Internet. Il faut savoir que Internet fonctionne grâce à des logiciels libres, par exemple. C'est comme ça d'ailleurs qu'est né Internet et qu'est né l'ordinateur tel qu'on le connaît. C'est parce que ça fonctionnait sur des créations qui sont réappropriables par d'autres et qui continuent de vivre et qui ne sont pas fossilisées ou capitalisées, en fait. C'est ça, hein. La capitalisation, en fait, enferme la vie d'une chose pour pouvoir profiter d'une valeur. Donc là, malheureusement, ce qui concerne le Creative Commons ou les licences libres, l'âge a été rallongé. Donc effectivement, maintenant, c'est seulement après 70 années, après le décès de la personne, que cela accède au domaine public. Donc ça, c'est en fait, c'est un recul, parce qu'il y a encore quelques années, c'était seulement 50 ans.
Oui, il y a 30 ans de ça.
Oui, il y a 30 ans. Ah, c'est... Oui, bon.
Je suis très vieux. Nous n'aurions pas pu enregistrer à l'époque.
Enfin, il y a 30 ans, oui, donc ça fait dans les années 90, quoi. C'est pas, enfin, c'est hier, quoi, en fait.
Oui, c'est vrai que... Mais du coup, on va quand même continuer à parler de poésie autour de licence libre avec un deuxième texte d'Arthur Rimbaud avec Antoine Motte-Difalis et roman, c'est ça?
Tout à fait. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent, chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise toile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève est du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans. Lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire, tous vos amis s'en vont, vous êtes de mauvais goût. Puis, l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
Merci beaucoup pour cette deuxième lecture. Alors Thali Envolé vient aussi de lancer un projet de financement participatif, hein, peut-être l'occasion d'en parler ici, même si, félicitations déjà, puisque vous avez atteint en tout cas un premier objectif. Donc peut-être parler de cette plateforme de financement participatif, parce qu'elle continue néanmoins, vous avez d'autres paliers. Parler peut-être de ce projet d'opus sur les poètes romantiques, sur les textes romantiques, et puis les autres projets pour lesquels on peut continuer à vous aider sur la plateforme Ulule.
Oui, tout à fait. Donc, on a décidé d'enregistrer toute une série de textes d'auteurs romantiques. Donc, on les connaît. Hein. Ce sont ceux qu'on étudie à l'école. Lamartine, Victor Hugo, Vigny, Musset, etc. Et on a décidé, évidemment, de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que pour le moment, on était tous complètement bénévoles et que c'était complètement intenable au bout d'un moment. Parce que le temps de répétition ne permettait pas de travailler de façon bénévole, de façon sur le long terme. Et donc, on a lancé une levée de fonds pour pouvoir rémunérer les interprètes et les techniciens, et le technicien. Et on a lancé ça sur Ulule. Ulule, c'est une plateforme de crowdfunding, hein, comme on appelle ça, une plateforme de financement participatif. Qui est spécialement axé sur les projets solidaires et généralement sur l'associatif, etc. Et donc, on a essayé de récolter 2500 euros. Et c'est fait. Ça a été fait en 11 jours. Voilà. Donc, déjà, un grand merci à tout le monde. C'est formidable. On vous aime. Et on continue. Il nous reste encore 22 jours pour exploser le plafond. Et on a un objectif à 3500 euros maintenant. Dans le but de créer notamment des bornes audio qu'on pourrait déposer dans les musées, dans les bibliothèques, dans les médiathèques et dans lesquelles on pourrait écouter nos enregistrements. Voilà, donc ça ce serait l'étape suivante si on atteint cette somme. Et puis on a plein d'autres projets dans nos valises si jamais on dépasse encore cette somme.
Alors évidemment, donc, on en reparlera sur le site de Poésie à l'écoute et sur la page Facebook. Dans ce projet de financement participatif, vous avez fait une sorte de teaser assez intéressant où vous interviewez des gens sur la Grand Place de Bruxelles sur le mot poésie. Et il y a une des personnes, je pense, qui dit « La poésie est inutile dans un monde consumériste, mais pour moi, elle est indispensable pour survivre. » Je pense que c'est une parole qui a été dite à Antoine et qui vous a touché.
Oui, ça a été dit à nous tous, hein, parce qu'on était
tous derrière le micro.
On était plusieurs. Mais donc effectivement, on a eu cette dame qu'on a interviewée, Grand Place de Bruxelles, et c'était un peu miraculeux. Elle nous a tenu des propos tout à fait merveilleux sur la poésie. Donc effectivement, la poésie, dans un monde consumériste, elle est parfaitement inutile, mais elle est indispensable pour vivre. Et comme l'art, hein, on a retrouvé dans les camps de concentration des poèmes écrits par les détenus, parce que c'est ça qui les maintenait en vie. Donc la poésie, la beauté, l'art, c'est, ce sont les choses qui sont en réalité vitales. Et donc c'est aussi ça qu'on défend à travers notre projet, c'est l'importance de la poésie et la place qu'elle doit conserver dans, dans nos vies. Voilà.
Quelqu'un veut réagir peut-être sur ce que vient de dire Antoine avant d'écouter un, une dernière lecture par un autre, Antoine de Baudelaire, Les bijoux. Bah, place à la poésie, alors on vous écoute Antoine.
Eh bien oui, si c'est vital, ça peut aussi être extrêmement érotique. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi ce texte-ci qui est un extrait du premier opus de Thalie Envolée autour c'est, de Charles Baudelaire.
C'est d'autant plus vital que c'est érotique.
Exactement, merci beaucoup. La très chère était nue et, connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur quand dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer. Et du haut du divan, elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi, comme un tigre dompté, d'un air pâle et rêveur, elle essayait des poses. Et la candeur, unie à la lubricité, donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras, et ses jambes, et sa cuisse, et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins. Et son ventre, et ses seins, ses grappes de ma vigne s'avançaient, plus câlin que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise et pour la déranger du rocher de cristal où, calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unis par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait sortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Et la lampe, s'étant résiliée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant fou soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre.